France Culture. Du soir, Quentin l'a fait.
Fin 2025, le marché de l'art est revenu en une à coup de record, 236,4 millions de dollars pour un Klimt à New York, un tableau de Frida Kahlo devenu l'œuvre la plus chère jamais vendue pour une artiste femme, un Gauguin remis sur le marché pour la première fois depuis plus de 40 ans. Le débat public se fige alors sur des chiffres, des enchères et des salles qui applaudissent, mais derrière ces montants, il y a aussi des ateliers, des matériaux, du temps de travail, des coûts et surtout une question simple, qui est payé et quand? Alors quand on paye une œuvre d'art, paie-t-on un objet, une rareté, une réputation? Et si l'art est aussi un marché, comment ces prix se construisent-ils? Qui les fixe? Qui en profite? Et pourquoi l'argent y reste-t-il si souvent difficile à nommer? Autant de questions et autant de réponses qui vont nous être données par notre invitée Sophie Crasse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de l'art contemporain à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et vous avez fait paraître avec Charlotte Guichard l'ouvrage intitulé « Vendre son art de la Renaissance à nos jours », un livre qui apparu aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du Soir.
Le prix est de 205 millions d'euros et le marteau va bientôt tomber. Mesdames et messieurs, je pense que ça y est, on est à 205 millions d'euros. Voici le tableau d'Elisabeth. Ce portrait est uniquement ici chez Sotheby's, ici au Breuer. Ce tableau de Klimt, Julian, il est à vous. Félicitations. Et mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'agit d'un record pour une œuvre d'art vendue chez Sotheby's, sans grande surprise bien sûr, et c'est également le prix le plus élevé jamais atteint pour une œuvre d'art moderne vendue aux enchères. Merci à tous nos enchérisseurs, merci beaucoup, merci.
Voilà un homme, Sophie Crasse, qui parle tout de même extrêmement vite. Il s'agissait du président de Sotheby's Europe. Et on le disait, la rentrée 2025 a été marquée par un certain nombre de records dans le marché de l'art. À New York, une œuvre de Gustav Klimt, le portrait d'Elisabeth Lederer, est devenue la deuxième œuvre la plus chère de l'histoire. 236,4 millions d'euros. Que dit un record comme celui-ci ?
Alors ça dit d'abord à quel point une vente aux enchères, c'est d'abord un spectacle.
Mmh,
et c'est vraiment ce qu'on a entendu.
Hein.
C'est un spectacle dans lequel le commissaire-priseur joue vraiment le rôle de metteur en scène. Et il est là pour attiser les affects. Parce que à l'intérieur de cette vente aux enchères, en fait, c'est un petit nombre de collectionneurs qui peuvent faire monter les prix à de tels niveaux. Et il s'agit donc d'attiser la concurrence, la compétition, le désir d'acquérir des œuvres qui sont présentées comme toujours plus uniques et désirables.
Attiser les affects, attiser le désir, ça signifie que des ventes comme celle-ci se font d'abord et avant tout sur une démarche irrationnelle des acheteurs ?
Alors c'est très difficile de faire la part des choses, je pense, entre la forme d'irrationalité qui existe forcément, je pense, dans ces contextes d'acquisition d'œuvres d'art, et d'un autre côté, le fait que ces œuvres sont aussi des réservoirs de valeur, et qu'il y a tout à fait une logique pour une personne qui est très riche à détenir une partie de son argent sous la forme d'œuvres d'art, dans la perspective de les revendre avec profit plus tard, ou non d'ailleurs, simplement dans la perspective de garder, de matérialiser cette valeur dans quelque chose de tangible.
On le disait, quelques jours plus tard, cette fois-ci c'est un tableau de Frida Kahlo qui a battu un autre record, celui de l'œuvre la plus chère jamais vendue pour une artiste femme. Est-ce que, là encore, cette fois-ci, cela vient illustrer le poids genré du marché de l'art ?
Oui, absolument. Et puis tout le narratif, en fait, que les vendeurs mettent dans les histoires qu'on raconte à propos du marché de l'art, cette redécouverte des artistes femmes qui produit une vraie relecture, en fait, du canon de l'histoire de l'art, qui a lieu depuis quand même bien longtemps, mais qui maintenant se traduit dans ces prix records sur le marché de l'art. C'est aussi une manière d'alimenter le marché et de continuer à produire cette inflation de prix impressionnante.
Une vente beaucoup, beaucoup plus polémique a eu lieu cet automne. Le Désespéré, c'est le nom du fameux autoportrait du peintre Gustave Courbet qui a été vendu. C'est ce que disent tous les articles, en toute discrétion au Qatar. Que signifie cette expression en toute discrétion ? Est-ce que cela veut dire qu'il existe un marché de l'art caché, dissimulé ?
Alors c'est intéressant parce que On a parlé à l'instant des grandes ventes aux enchères publiques, où là, le marché de l'art et les prix se font vraiment aux yeux du public et cette visibilité très forte importe. Mais le marché de l'art se joue aussi dans le secret des ventes de gré à gré, derrière les portes des galeries d'art, des antiquaires. Et je pense qu'en fait, les fantasmes et parfois les soupçons qui pèsent sur le marché de l'art tiennent précisément à cette opposition entre une extrême visibilité et de l'autre côté, le secret, l'opacité et peut-être le soupçon que quelque chose de, disons, de pas forcément beau à voir se passe derrière les portes closes.
Comment expliquez-vous que la France puisse laisser partir un autoportrait comme celui-ci, autoportrait que l'on trouve dans tous les manuels scolaires, présent dans l'imaginaire de tous les Français, un autoportrait qui, longtemps, a été exposé au musée d'Orsay?
Ouais, alors je pense que ça dit deux choses. La première, c'est la disparité flagrante entre l'économie très précaire des musées, en particulier des musées publics en France, et de l'autre côté...
Qui manque de moyens, vous voulez dire ?
Qui manque de moyens par rapport aux capacités d'achat presque illimitées des très grandes fortunes du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, c'est que la France a une position un peu ambivalente là-dessus, c'est-à-dire qu'elle a beau jeu de plaider que l'art est universel et que finalement, il peut circuler quand il s'agit de ne pas répondre aux demandes de restitution qui lui viennent de pays qui voudraient voir revenir leur patrimoine, le patrimoine qui a été créé chez eux. Et puis de l'autre côté, finalement, quand la France se retrouve elle-même concernée par cette fuite du patrimoine vers d'autres pays, là, on s'aperçoit que finalement, ça compte pour nous et qu'on a envie de garder ce qui a été créé dans un pays, dans ce pays-là.
Je l'ai dit, vous signez l'ouvrage intitulé « Vendre son art de la Renaissance à nos jours » aux éditions du Seuil. Vous le co-signez plus exactement avec Charlotte Guichard. Vous posez une question, un fil rouge de ce livre. Que paie-t-on vraiment quand on paie une œuvre d'art? Pourquoi poser cette question?
Alors, je pense que l'idée derrière ça, c'était de revenir en fait à qu'est-ce que c'est que le prix pour l'artiste. C'est une question qui est souvent passée sous silence parce que, on l'a vu tout à l'heure, le prix, c'est d'abord le prix en vente, c'est le prix pour le collectionneur, pour la galerie peut-être. Mais nous, on a voulu se poser la question vraiment de l'artiste et lui dans tout ça ou elle, qu'est-ce qu'il gagne à voir son œuvre mise sur le marché?
Alors, je vais faire un pas en arrière parce que là, vous parlez surtout dans l'ouvrage de ce que vous appelez le premier marché. On va s'intéresser d'abord au second marché, c'est-à-dire, en gros, une fois que l'artiste n'est plus présent, la deuxième vente de l'œuvre. Pourquoi c'est ce second marché qui mobilise toutes les ressources, toute l'attention, notamment l'attention médiatique ?
Alors, je dirais d'abord parce que ce second marché a lieu en bonne partie dans le cadre des ventes aux enchères publiques, où précisément il y a cette possibilité de mettre en spectacle le prix. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est aussi que ce second marché, donc le marché de la revente, il concerne, en fait, il y a déjà un tri qui a été fait, en quelque sorte. Et donc, il concerne des artistes qui sont plus reconnus, plus célèbres, in fine, qui représentent un petit peu les grandes stars, en fait, de l'histoire de l'art. Et c'est donc naturellement sur ces œuvres que se focalise l'attention.
Vous écrivez sur ce second marché, les prix sont publics, théâtralisés et construits dans la concurrence visible. Est-ce que c'est un marché arbitraire, ce second marché, ce marché de la revente où, on le disait, des sommes astronomiques sont parfois déployées pour acquérir des œuvres d'art?
Alors, je dirais que c'est un marché qui est imprévisible, au sens où, encore une fois, comme assez peu de collectionneurs, collectionneuses sont capables d'acheter à ces prix-là, finalement, c'est un peu contingent en fonction des personnes qui vont se trouver dans la pièce à ce moment-là. Les prix peuvent vraiment s'envoler ou au contraire rester à des niveaux plus bas. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique économique derrière. Il y a de nombreuses études économétriques qui essayent de trouver cette rationalité-là. Ce qui est vrai, c'est que les prix se fondent en fait sur une estimation qui est liée à ce qu'on appelle la cote et qui est finalement un calcul assez simple qui part du principe qu'on va faire la moyenne des prix atteints en vente aux enchères pour des œuvres comparables du même artiste et ça vaut pour évaluation du prix futur. À partir de là, la surprise peut intervenir.
Donc la variable première pour déterminer un prix sur le second marché, sur le marché de la revente des œuvres d'art, c'est d'abord et avant tout la comparaison?
Oui, c'est la cote qui permet effectivement la comparaison. Et puis un autre facteur qui reste très important, c'est un facteur matériel, tout bête, c'est les dimensions de l'œuvre. Plus l'œuvre est grande, plus elle vaut cher.
Alors venons-en au cœur de votre ouvrage, le premier marché cette fois-ci. Il faut nous expliquer de quoi il s'agit, de quoi est-il fait, à quoi ressemble-t-il, quel est ce paysage, c'est vrai, plus méconnu que le second.
Alors le premier marché, donc, c'est le moment inaugural dans la vie marchande d'une œuvre d'art, le moment où elle sort de l'atelier pour la toute première fois. Et c'est un moment qui est très intéressant parce que c'est celui qui engage vraiment l'artiste. Vraiment, c'est le moment où l'artiste va s'engager dans une transaction marchande. Et ça peut se faire dans différents cadres. Ça peut se faire dans l'atelier, précisément. Mais ça peut se faire aussi par correspondance. Ça peut se faire dans le cadre d'une galerie, une galerie de premier marché, où le galeriste va accompagner l'artiste dans cette transaction. Mmh. Donc ça prend des formes très, très différentes et qui sont souvent beaucoup moins documentées que les reventes.
Vous voyez, voici ce que vous écrivez au sujet du premier marché. Ce choix, celui du prix, ce choix repose sur l'idée que c'est ce prix-là qui affecte le plus directement l'artiste. En somme, le prix qui nous intéresse ici, qu'il soit le prix de l'œuvre ou le prix de l'artiste, est toujours le prix pour l'artiste, sa rémunération. Expliquez-nous.
Alors, quand on pense au prix vraiment très très élevé atteint en vente aux enchères, en fait, il faut bien comprendre que sur ce prix, l'artiste ne touche rien ou quasiment rien, sauf droit de suite. C'est vraiment faible. Le seul moment en fait où l'artiste touche véritablement une rémunération du marché, c'est lors de cette première vente. C'est celle qui la concerne. Ensuite, les profits éventuels qui seront réalisés le seront par les collectionneurs successifs de l'œuvre.
Au vu de l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quand même eu des cas où l'artiste touchait de l'argent d'une autre façon. Si on pense par exemple à la commande publique, à la commande royale, à ce moment-là, l'artiste était directement payé par l'État et sa rémunération était quasiment une forme de salaire.
Oui, et en réalité, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré l'omniprésence du marché de l'art dans nos représentations, il faut vraiment se rendre compte que pour les artistes aujourd'hui, le marché et la vente des œuvres sur le marché ne représentent qu'une petite partie de leur rémunération. C'est assez petit par rapport à des commandes, des subventions, des bourses, des résidences, voire un deuxième métier ou une solidarité familiale. Donc finalement, le marché ne représente qu'une partie de la rémunération des artistes aujourd'hui comme hier.
Parlez-nous aussi, Sophie Kras, d'un autre temps, ce temps où les marchands n'existaient pas, ou en tout cas ce temps où ils étaient bien moins présents et où les artistes fixaient par eux-mêmes, pour eux-mêmes, le prix de leurs œuvres.
Ouais, alors c'est vrai que on voit en fait des traces dans les archives, dans la correspondance de cette rhétorique formidable, de ce discours économique sur l'art que les artistes étaient capables de produire pour vendre leurs propres œuvres, pour négocier les prix au plus haut. Nous, on s'est intéressé particulièrement à l'artiste Artemisia Gentileschi qui fait preuve d'une verve remarquable pour expliquer à son collectionneur pourquoi, certes, son prix de base est de 100 écus par figure, mais cette œuvre est particulièrement remarquable. Elle a nécessité de nombreux modèles féminins nus qui lui ont coûté cher, et pour toutes ces raisons, le collectionneur doit y mettre le prix.
La voix de l'artiste, du peintre même, Thomas Lévy-Lanne, à l'œuvre formidable. Il était l'invité d'Entendez-vous l'écho le 3 mai 2018.
Moi, je dois dire que le rapport entre la valeur d'un artiste et sa cote me paraît presque ridicule, parce qu'il y a d'autres enjeux dans ces choses-là, parce que par exemple, une galerie qui a des rapports de force avec l'État va pouvoir d'un coup valoriser ses artistes plus que des galeries précaires ou des choses comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que les dés sont pipés comme à peu près dans tous les milieux économiques. Enfin, moi, je considère pas que c'est la valeur de mes tableaux qui fait ma valeur artistique. Il y a une chose qui est claire en France, c'est qu'il y a une vitalité, notamment de la peinture, mais énorme, avec des gens extrêmement généreux qui travaillent pour vraiment pas grand-chose et qui produisent une qualité de travail qui serait pas valorisée. C'est dans le sens où c'est des gens qui sont professeurs à côté, qui sont professeurs en école des beaux-arts, qui sont voilà. Et tout ça, c'est une espèce de marché avec des galeries précaires qui fait que finalement c'est un tout petit marché avec un potentiel énorme économique, mais qui n'est pas du tout valorisé, notamment dans les médias, à mon sens. Quand des grands magazines parlent de Jeff Koons et tout ça, c'est comme si on parlait de la musique en disant que la musique c'est que Beyoncé. On sait quoi.
Elle est intéressante, cette distinction que fait Thomas Lévy-Lanne sur la valeur de l'artiste, sa valeur artistique et la valeur de ses tableaux. On imagine que cela est absolument vrai s'agissant du second marché de l'art. Est-ce que c'est vrai aussi pour le premier marché? Est-ce qu'il y a une distinction très forte, évidente, entre la valeur d'un artiste et la valeur de ses tableaux?
Alors, c'est une question compliquée. En fait, souvent, quand on emploie le mot valeur, c'est tout simplement pour critiquer le prix. Donc, il y a vraiment cette idée que si un artiste ou une œuvre n'est pas payée à sa juste valeur, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le prix. Je pense que pour tous les artistes qui travaillent, il est très clair qu'il y a que la valeur de leur travail ne peut pas se réduire au prix auquel les œuvres se vendent. Et il est vrai, comme le disait Thomas Lévillaine, que en réalité, ces prix pour la plupart des artistes sont des prix très faibles et qui en fait ne rendent pas compte de l'ensemble du travail qui a été nécessaire à la production des œuvres. Si on cherchait à chiffrer le travail en fait derrière ces prix, ce serait vraiment très faible. Donc il s'agit pas d'aligner la valeur artistique sur le prix, ça c'est très clair, mais il s'agit aussi de penser disons l'horizon marchand comme une contrainte créative, comme quelque chose qui quand même est pris en compte par les artistes dans leur quotidien, dans leur création, et qui les aident en fait à modeler leurs œuvres.
Dans le premier marché, que reflète donc le prix ? Est-ce que c'est d'abord et avant tout lié à la matérialité de la conception de l'œuvre, à son coût réel ? Est-ce qu'on peut établir un lien entre l'un et l'autre ?
Oui, alors je dirais que pour nous, le prix sur le premier marché, c'est un savant mélange entre des caractéristiques objectives qui sont liées effectivement aux coûts de production, les coûts de production intégrant les matériaux, le temps de travail justement, et puis de l'autre côté, des facteurs qui sont davantage liés à la négociation et à l'effort des artistes de négocier la valeur de leur réputation, de leur nom. Voilà, la valeur de l'artiste, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vraiment dans ce mélange entre ces deux facteurs qu'on peut trouver le prix.
Est-ce que j'ai tort si je dis qu'au fond, il y a un prix plancher qui représente les coûts objectifs, c'est-à-dire la matérialité, le mode de production de l'œuvre d'art, et qu'ensuite, le reste dépend largement, très largement, de la réputation ?
Oui, en un sens, on peut dire ça, au sens où, comme n'importe quelle production, il est compliqué pour des œuvres d'art d'être vendues à perte, en dessous de leur coût de production, même si en réalité ça arrive. Mais donc oui, on peut dire ça. Et en fait, à partir de ce plancher, les variations peuvent être très très grandes en fonction de la réputation acquise par les artistes, en fonction là aussi d'un jeu de comparaison avec leurs pairs, arrivés au même niveau de reconnaissance et de carrière.
Il y a des conventions professionnelles, écrivez-vous, des manières de faire et des discussions situées qui produisent le chiffre final, fin de citation. Quelles sont-elles, ces conventions professionnelles ? Comment, là aussi, d'une manière très concrète, presque sociologique, établit-on effectivement ce prix ?
Oui, c'est vrai qu'on se représente parfois le prix en galerie comme étant un prix inventé.
Arbitraire, pratiquement.
Arbitraire, exactement. La réalité est quand même assez différente. En fait, il y a une convention qui est fondée sur deux... points principaux, deux règles, qui sont d'ailleurs des règles non écrites, qui se transmettent dans la pratique du métier. La première règle, c'est une règle à l'instant T, qui est de dire que, en fait, toutes les œuvres d'un artiste au même moment, quand elles sont comparables en dimension et en médium, sont au même prix. Et puis la deuxième règle, c'est que le prix va augmenter au fur et à mesure du temps, avec l'idée qu'il ne doit pas redescendre. On doit être sur une trajectoire ascendante, parce que redescendre les prix, c'est envoyer un très mauvais signal aux collectionneurs, au marché. C'est envoyer un signal de défiance, en fait, sur la capacité de l'artiste à conserver sa réputation. Donc, tout l'enjeu est vraiment d'augmenter les prix progressivement, de manière un peu agressive, si on a envie d'être très, très proactif, mais pas trop vite non plus, pour pas avoir à se retrouver dans cette situation délicate où, en fait, les prix affichés ne permettent pas de vendre les œuvres.
Ce premier marché dans lequel vous nous immergez, Sophie Kras, est-il moins inégalitaire que le second marché, parce qu'il se fait plus de gré à gré, parce que l'artiste a son mot à dire, parce que son pouvoir de négociation est plus fort ?
Alors c'est vrai que la capacité d'action des artistes, elle s'exprime dans ce marché. Néanmoins, toutes les études sociologiques le montrent, le métier d'artiste, ça reste un métier qui est précaire, où les revenus sont inférieurs à la moyenne, si on prend en compte le niveau d'études et l'expérience de ces personnes. Et c'est aussi un milieu où les revenus sont extrêmement, sont distribués de manière très inégalitaire, où une toute petite poignée d'artistes remporte les revenus les plus importants. Oui, on peut dire que être artiste, c'est vivre dans une certaine forme de précarité dans un monde de l'art très riche.
Comment abordez-vous, par ailleurs, Sophie Crass, une autre question fondamentale, la question de la reproduction des œuvres d'art, la reproduction qui représente aussi pour les artistes un gain pécuniaire important?
Oui, c'est vrai qu'on se représente souvent l'œuvre d'art avant tout dans son unicité. On pense toujours au chef-d'œuvre unique, inimitable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, l'économie de l'œuvre d'art est aussi et surtout même une économie de la répétition, de la multiplication, de la reproduction, que ce soit de la répétition en peinture. Très nombreux artistes, à commencer par le Titien par exemple, ont répété plusieurs fois avec des variations les mêmes tableaux pour répondre à une demande du marché et pour pouvoir en quelque sorte rentabiliser leur création. Mais aussi la reproduction sous forme photographique ou autre, ou gravée, qui a été un très gros enjeu en fait pour les artistes et même une bataille juridique pour obtenir les droits de reproduire leurs œuvres.
Mais du point de vue économique, comment ces artistes-là gèrent-ils cette question de la reproduction? Vous écrivez, la reproduction n'est pas seulement une question technique, c'est également un enjeu de droit, donc de pouvoir, donc de revenus.
Oui, c'est un enjeu critique parce qu'en fait, il est à la frontière entre un enjeu esthétique et un enjeu économique. En fait, quand une œuvre d'un artiste ou d'une artiste est reproduite, il y a premièrement une volonté de protéger son intégrité en fait plastique et conceptuelle, et d'autre part une volonté de tirer un revenu de cette reproduction. Et c'est vraiment à la frontière entre ces deux enjeux esthétiques et économiques que se situe la bataille. Et ça a vraiment été une bataille de jurisprudence pour que on accepte de reconnaître que les droits de reproduction appartiennent à l'artiste et non pas, par exemple, à la personne qui possède l'œuvre, et que l'artiste devra être consulté pour cette reproduction et devra aussi être rémunéré. Et évidemment, aujourd'hui, avec toutes les questions qui se posent autour des IA génératives, c'est cette question-là qui est en train d'être reposée, à la fois la question de l'intégrité et de la propriété esthétique des œuvres et, de l'autre côté, la question de la rémunération.
Et puis, deux clichés que vous remettez en cause avec votre co-autrice. Le premier d'entre eux, les catégories qui paraissent aujourd'hui aller de soi, original, édition, tirage limité, reproduction, ces catégories-là, dites-vous, écrivez-vous, ne sont en réalité pas du tout naturelles.
Oui, c'est vrai. On prend un exemple qui avait d'ailleurs été discuté avant nous par nos collègues, qui est celui de la notion d'œuvre originale, par exemple, qui est une notion qui, en fait, entre dans le droit à partir en fait d'un texte sur la fiscalité et qui en fait pour des raisons fiscales, pour des raisons de définition du niveau du taux de TVA va faire l'objet d'une définition juridique pour la première fois. Donc c'est en fait au gré de ces contingents, de ces moments très pragmatiques que se figent ces catégories qui sont aujourd'hui naturalisées mais qui en fait pour les artistes, ne le sont pas nécessairement, et nombre d'entre eux jouent au contraire d'une sorte de perméabilité entre ces catégories.
Et puis, deuxième cliché que vous abattez, qui est au fond aussi là, en filigrane tout au long de votre ouvrage, l'idée selon laquelle les artistes ne seraient pas des êtres économiques. Les artistes seraient, au fond, de doux rêveurs et des êtres anti-économiques. Vous expliquez que c'est faux?
Oui, en fait, je trouve qu'on bascule souvent entre deux clichés. D'un côté, ce cliché de l'artiste comme être éthéré. C'était déjà comme ça que, à la Renaissance, Giorgio Vasari, dans ses Vies d'artistes, décrivait le peintre Masaccio comme un artiste qui était tellement pris dans sa peinture qu'il ne pensait même pas à se faire payer. Ça, c'est le premier mythe de l'artiste. Et puis le deuxième, qui est plus contemporain, c'est au contraire l'artiste stratège, l'artiste qui fait ça pour l'argent. Et l'idée, c'était un peu de naviguer entre ces deux clichés et de penser des artistes qui, en fait, très pragmatiquement, sont évidemment aux prises avec les enjeux économique de leur création, parce qu'ils ont besoin tout simplement d'en vivre et de la, et de la, de la faire reconnaître, et de s'éloigner un petit peu de ces deux caricatures pour montrer les manières finalement très très pragmatiques, très intuitives et parfois très conceptualisées avec lesquelles les artistes travaillent les contraintes économiques.
Mais dans le même temps, c'est aussi difficile, illégitime même pour certains artistes de parler d'argent, d'aborder le sujet de l'argent.
Oui, alors ça dépend quels artistes dans le livre.
Il y a des normes quand même.
Il y a des normes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment ancien, hein, dès la Renaissance et dans les discours humanistes sur l'art, l'idée que l'art devrait être hors de prix, littéralement, est quelque chose de très important. On pense à Poussin, qu'on cite dans le livre, qui inscrivait le prix à l'arrière de la toile, comme pour l'y cacher. Mais d'un autre côté, on discute un petit peu dans le livre de figures comme Salvador Dali ou comme Andy Warhol, qui au contraire ont joué en fait de manière provocatrice, hein, de ce tabou de l'argent pour façonner une nouvelle figure d'artiste autour de cette question.
Vendre son art de la Renaissance à nos jours, c'est aux éditions du Seuil. Vous co-signez cet ouvrage, Sophie Kras, avec Charlotte Guichard. Merci d'être venue au micro de Questions du Soir et merci également à celles et ceux qui font et qui pensent cette émission à mes côtés. Rodi Ecken, Audrey Carme, Bruno Barada à la réalisation ce soir, François Richer.